suite que je ne suis pas pratiquant ou le moins possible en ce qui concerne les outils numériques. Donc j'ai découvert plein de choses que j'ignorais complètement. J'ai jamais été sur les réseaux sociaux, j'ai toujours refusé. Et cela depuis longtemps en fait, puisque c'est de la génération donc X, hein, si j'ai bien compris. Et donc moi j'ai vu apparaître tout ça au fur et à mesure, et étonnamment, alors qu'autour de moi, mes amis étaient au séminaire ou ailleurs, étaient tous enthousiastes et avec une sorte de joie de découvrir les derniers outils formidables, etc. Moi, j'ai toujours été très, très réservé, et ce qui me gênait le plus, c'est que je trouvais que c'était la dépendance que je voyais que ces outils... Enfin, voilà, j'ai une sorte de réaction instinctive que j'ai mis du temps ensuite à réfléchir et à essayer d'articuler, mais j'avais une sorte d'intuition inexpliquée qui fait que je me suis énormément préservé et que j'ai très peu de goût. Par exemple, moi, je lis le journal papier encore. Je ne vais jamais voir des infos et je lutte contre cette volonté que j'aurais de vouloir savoir les derniers trucs qui seraient arrivés. Voilà. Donc, j'essaie de garder ces médiations très très concrètes d'un journal. Donc, ça, c'est je dirais mon ethos personnel. Alors ensuite, j'ai essayé quand même de réfléchir et je l'ai fait avec d'autres, dans le cadre d'un séminaire que je donnais à la faculté, qui s'intitulait Foi et culture, justement, et on a réfléchi en particulier dans le cadre de ce séminaire sur ce qu'on peut appeler la culture numérique et la relation avec la foi. Et on est sorti ce petit livre dont j'explique juste le titre, hein, Personne, avec un point d'exclamation. On a eu une conversation à table justement de. Voilà, qui m'expliquait que pour acheter un billet, il n'y avait jamais personne, on tombait sur personne, quoi. Il y avait des machines, et puis quand ça ne marchait pas, il n'y avait personne. Et en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'au fond, finalement, dans ce monde numérique, entre guillemets, qui donne plein de possibilités, au fond, y a-t-il vraiment quelqu'un ? On voit bien que souvent, on est face à personne. C'est un peu l'origine de ce titre. Voilà, maintenant je vais essayer de vous donner quelques grandes intuitions et de réflexions de ce livre qui pourraient être des éléments pour ensuite réfléchir à nos décisions, nos choix, sachant que j'ai aucune recette sur des questions concrètes. J'essaie plus de donner des réflexions de fond. Sachant que je suis plutôt, vous allez me découvrir, je suis extrêmement réservé, j'y vois quelque chose un enjeu qui touche, comme Jean-Baptiste a dit, hein, la question de l'intériorité. Et le sous-titre de ce livre, c'est l'existence numérique ou la négation de la chair. Il y a quelque chose, en fait, la thèse principale, c'est qu'il y a quelque chose d'une désincarnation, une sortie de nous-mêmes. Il y a un danger en tout cas qui amène ces pratiques, parce que ces pratiques ne sont pas neutres. Hein. Jean-Baptiste disait que l'outil technique n'est ni bon ni mauvais, mais il n'est pas neutre. Ça, c'était la phrase d'un autre frère, je crois. Le pape Jean-Paul II, le pape François dans Laudato Si, il dit quelque chose semblable. Il dit que l'outil technologique n'est jamais neutre. C'est-à-dire qu'il nous impose une logique. Et il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire on n'est pas l'outil technologique n'est pas l'outil de la technique ordinaire. Je veux dire, un marteau, c'est sûr qu'un marteau, c'est un clou, et je peux fracasser la tête de mon voisin. Bon. Donc on dira, finalement, le marteau, il est assez neutre, il est plutôt fait pour enfoncer un clou, mais je peux mal l'utiliser. Voilà, l'argument le plus classique et qui est très juste, mais l'outil technologique change complètement parce que en grande partie, la maîtrise m'échappe. Bien sûr, il y a toujours un point de maîtrise qui peut être un clic, mais au fond, on a l'outil technologique a une puissance que nous n'avons pas, que nous lui avons déléguée. Alors que le marteau, il a pas de puissance. Le marteau, vous voyez, finalement, il rentre dans... Il est un prolongement de mon corps, mais il est... à ma disposition entièrement. Alors que l'outil technologique m'échappe en partie, et en plus ou moins grande partie. Donc je ne suis pas entièrement maître de ce que l'outil technologique peut faire, de ce que je peux lui faire faire, etc. Voilà, donc ça c'est l'introduction. Pour moi, l'axe majeur, le critère, je ne sais pas comment l'appeler, c'est la question de l'incarnation. D'abord parce que notre foi, elle est dans le mystère de l'incarnation, dans lequel Dieu se révèle, mais aussi Dieu révèle l'homme à lui-même. Une double révélation dans l'incarnation. Le Verbe se fait chair, bien sûr, mais ça veut dire que du coup la chair acquiert une dignité, toute chair, acquiert une dignité impensable, enfin avant, celle d'être capable de Dieu. Et la chair, c'est l'existence humaine dans toute sa concrétude. C'est pas la chair, c'est dans l'hébreu, hein, le bassar, c'est l'existence humaine concrète dans sa fragilité, dans sa beauté, dans sa mortalité. Et donc, ça veut dire que la chair est un lieu où Dieu nous parle. Dieu, il parle une parole de vie à travers nos sensibilités, notre affectivité. Et donc, ça, par rapport aux Grecs, vous voyez, qui avaient dévalué quelque part la matière et même la sensibilité, la révélation chrétienne la réévalue au contraire. La sensibilité est un lieu où Dieu nous parle, ne serait-ce que parce que la sensibilité de notre chair nous ouvre au monde, à la création, à un monde créé, donc, qui est aussi une parole de Dieu. Elle nous ouvre à autrui, elle nous ouvre à Dieu aussi. L'intériorité, c'est pas hors chair, c'est au cœur de ce que nous vivons, de notre existence une, parce que nous sommes un corps et âme. Ça, c'est l'anthropologie de Claudio Metzès, cette unité mais qui est traditionnelle. Voilà, donc ça veut dire que la sensibilité est subjective. Quand je dis la sensibilité, c'est un peu au sens large, mais c'est plus précisément les cinq sens. C'est l'expérience du monde par de la vision, de l'ouïe, du goût, de l'odorat. Et vous savez d'ailleurs que la tradition chrétienne a développé la notion des sens spirituels, mais qui ne sont pas des choses totalement déconnectées des sens corporels. Et d'ailleurs, l'art chrétien est un art qui suscite... nos sens, la liturgie elle-même suscite toute notre corporéité. Voilà, dire que la sensibilité est subjective, c'est profondément chrétien, je crois, et c'est non grec. Parce que, voilà, pour les Grecs, ou on peut dire même ensuite, pour les néo-Grecs que sont les anciens et les autres, en fait, la sensibilité, c'est un processus impersonnel. C'est soit des impressions qui viennent frapper des sens qui sont en puissance et qui donc de les recevoir. C'est soit des transmissions de données. Ça, c'est plutôt la vision moderne. Et donc, avec des capteurs, quoi. Enfin, c'est cette vision-là qui est notre vision assez spontanée de la sensibilité. C'est des particules qui viennent informer des capteurs, de sorte qu'on pourrait se dire, ben voilà, un ordinateur pourrait devenir sensible, parce que c'est pour ça qu'on fait aussi. On a des objets connectés, parce que effectivement, dans la vision scientifique des choses, on peut avoir des infos sensibles, si je puis dire, qui ont été numérisées, et qui viennent capter des capteurs, enfin qui viennent toucher des capteurs et qui viennent opérer faire des opérations, des algorithmes, etc. Mais en réalité, ça c'est des choses impersonnelles. Il n'y a personne qui sent rien du tout là. Pour qu'il y ait une sensibilité réelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sente. Ça c'est vraiment le. Et pour sentir, alors c'est là où j'utilise l'apport de. Non seulement de la théologie, mais de la philosophie, et particulièrement de la phénoménologie. J'ai beaucoup travaillé Michel Henry, je ne sais pas si vous voyez. Michel Henry a tout un beaucoup travaillé ces questions, la question du corps, la question de la sensibilité. Et il y a un concept phénoménologique d'auto-affection. En fait, je vais essayer de vous le dire simplement. En fait, je ne pourrais rien sentir du monde, aucune couleur, aucun son, je ne pourrais rien entendre, rien voir, si je ne me sentais moi-même. Il faut se sentir soi-même pour sentir quelque chose d'autre. Quand je vois, c'est moi qui vois. Un ordinateur, il ne verra rien, parce qu'il ne se sentira pas en train de voir. Vous voyez cette différence entre le se sentir, qui caractérise une personne humaine, et le fait simplement d'être agité par des particules qui viennent provoquer des réactions, mais qui sont, tout ça, c'est impersonnel. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée très importante, c'est que, par exemple, ma vision, elle s'éprouve elle-même pour être vision. Quand je vois un ciel bleu, c'est moi qui le vois. Et c'est indissociable, ces deux réalités. C'est une tautologie, bien sûr. Mais c'est très important, on oublie en général. On s'intéresse au ciel bleu, on s'intéresse aux arbres. Mais en réalité, c'est une expérience intérieure. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu peut nous parler à travers la création. Parce que c'est une parole intérieure aussi. Quand on voit un beau paysage et qu'on est ému, qu'on a un sentiment de plénitude, ça dit bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. On n'est pas seulement un capteur ou un appareil photographique, mais on est ébranlé, parce que nous éprouvons nous-mêmes dans cette expérience devant le paysage. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et ça ouvre un espace intérieur. Donc l'intériorité humaine, c'est pas un espace vide où il n'y aurait pas le monde. C'est un espace qui rend toute chose intérieure, hein, qui permet de voir un paysage, de rencontrer autrui, de rencontrer Dieu, réellement, hein, dans un espace qui est habité par nous et habité par ce que l'on rencontre. Et quand Pascal dit « Dieu sensible au cœur », c'est ça qu'il veut dire. Voilà, bon, ça c'est un peu, donc, pour moi, l'axe, hein, c'est l'incarnation. Mais l'incarnation, bien sûr, du Christ, du Verbe, mais qui part, j'allais dire par extension, mais de manière assez... évidente, en tout cas, révèle l'homme dans cette charnalité, mais spirituelle, si on peut dire. Alors maintenant, que se passe-t-il dans l'œuvre, donc je m'arrête à une deuxième fois, quel type d'expérience numérique propose-t-il à notre sensibilité? Comment est-ce que nous vivons notre sensibilité lorsqu'elle est touchée, lorsqu'elle a affaire au numérique? Alors, d'abord, je vais repartir de l'expérience sensible ordinaire. En fait, dans l'expérience sensible ordinaire, dans le bleu du ciel, dans les couleurs, les sons qui m'affectent, il y a un pouvoir de sentir. Il y a le l'ouïe, il y a la vision, il y a le goût, l'odorat. Ce sont des pouvoirs, parce que justement, d'une manière mystérieuse, il se trouve que ce qui est extérieur me devient intérieur par le fait que je le sente. Et ça, donc, ça veut dire que ça engage l'homme corporellement, mais dans toute sa corporéité, en lien avec d'autres types de perceptions, qui sont d'abord la perception de l'espace et du temps, qui sont toujours engagées quand on perçoit un sensible, qu'il soit de la vision, l'odorat. C'est toujours lié à une perception spatio-temporelle, et c'est toujours lié dans une unité des sens. En fait, nos sens sont toujours coordonnés, ils s'exercent ensemble. Alors parfois, bien sûr, ça sera juste la vision qui va être précisément engagée, mais les autres sens ne sont pas pour autant absents. Et cette unité, elle est liée à l'unité que je suis. Pour ça, s'il n'y avait que des capteurs d'ondes de lumière, que des capteurs d'ondes acoustiques, que des capteurs différents, bah, ça ne ferait pas un bonhomme, ça ferait juste quelque chose, je ne sais pas moi, un truc informatique, mais qui ne sentirait rien. Et dans l'expérience, justement parce que cette expérience sensible engage bien sûr tout mon être, parce qu'elle engage tout mon corps, tous mes autres sens, elle a le pouvoir, lorsque j'exerce ces pouvoirs de sentir, lorsque je regarde un paysage, lorsque j'écoute une musique, lorsque ces pouvoirs s'exercent, ils s'accroissent. De même que, à force d'aller au musée, mon regard, ma capacité de voir va devenir plus intense, plus attentionné. Il y a quelque chose qui grandit. Pas de l'ordre du quantitatif, mais de l'ordre de la qualité. Donc, plus on fait un usage des sens appropriés, si je puis dire, plus ceux-ci gagnent en intensité, en finesse, et donc plus il y a une sorte d'accroissement intérieur qui s'opère. C'est pour ça que d'aller écouter de la belle musique fait du bien. Écouter, voir un beau paysage, etc. Donc il y a une intensité de vie qui est donnée dans l'expérience sensible. Et donc ça, c'est un plus aussi dans la vie intérieure. Il y a un plus de la vie. Et on pourrait même dire, ça c'est ce que Michel Henry dit, donc ce philosophe, hein, que c'est le pouvoir de sentir qui constitue, alors bon, c'est peut-être un mot un peu technique, qui constitue l'objet senti. Ce qu'il veut dire par là, c'est que, et ça Kandinsky le dit par exemple dans son ouvrage sur l'art, du spirituel dans l'art, par exemple la couleur, une couleur bleue, c'est pas simplement une fréquence, on va dire, je crois que c'est assez bleu, hein, fréquence non ondulatoire. Bon. Une couleur bleue, c'est une résonance intérieure. Donc c'est immédiatement spirituel. Un son, c'est une résonance intérieure. Toutes ces réalités ne sont pas seulement des infos qui viennent jusqu'à moi. Il y a la capacité au préalable de les recevoir pour ce qu'elles sont. Et c'est ça qui permet que dans l'expérience sensible, les choses me soient présentes. Il y a une représentation sensible. Représentation, ça dit aussi rendre présent. Il y a un sentiment de présence. Ce qui rend aussi possible l'art. L'art va être aussi une autre manière, si je prends la peinture, parce que le problème, c'est que je vous dis des beaux paysages, je vous dirais, des beaux paysages, il n'y en a pas tout le temps, il y a souvent des murs gris, des barres HLM, mais en réalité, c'est que, alors c'est vrai qu'on peut défigurer le monde, mais ce qui est sûr, c'est que notre regard s'émousse. Notre regard, notre oui, ne perçoivent plus la merveille de la création, tout simplement. Et l'art vient là pour nous relancer, en quelque sorte, nous réapprendre à voir, nous réapprendre à écouter. Donc voilà, il y a ce va-et-vient entre l'expérience artistique et l'expérience du monde, mais qui sont, à mon avis, indissociables. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'expérience de l'art, qui soit donc liturgique ou plus profane, peu importe, s'il n'y a pas cette expérience de l'art du beau, eh bien, notre regard s'émousse et le monde devient muet, ne nous parle plus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'expérience numérique, l'expérience sensible numérique? Parce que l'expérience numérique nous met en présence de sensibles d'abord, surtout des images. Des images soit fixes, des photos, soit des images qui bougent, hein, des bouts de vidéo, soit éventuellement des courts textes, soit des sons, soit des musiques. Bon, bref, il y a tout un tas de. Alors, et demain, ça sera aussi des odeurs, ça sera aussi même du toucher, hein, avec le métavers, etc. Il va y avoir des expériences sensibles, immersives, qui vont carrément nous permettre, avec nos cinq sens, d'habiter un autre monde. Alors, que se passe-t-il? Voilà, c'est un peu en tout cas l'analyse que je propose. En gros, dans l'expérience numérique, il me semble que s'opère un court-circuit de cette sensibilité intérieure qui est éveillée par par la sensibilité du monde. Pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. C'est que d'abord, encore une fois, quand je vous dis la couleur bleue, elle émet une résonance spirituelle, c'est parce qu'elle est une tonalité de ma vision. Hein. Le son aigu est une tonalité de ma capacité d'écoute. Ce n'est pas quelque chose de simplement extérieur qui viendrait là et que j'analyserais en disant, ben voilà, telle fréquence. Toutes ces réalités sensibles sont des tonalités intérieures. Et lorsque, par le codage binaire, puisque c'est ça au fond qu'a rendu possible le numérique, hein, c'est qu'on on peut reproduire à l'identique des images, des sons, enfin à l'identique, en tout cas de manière binaire, enfin on peut les coder en binaire et les ressortir à partir de ce codage binaire en son ou en image, avec des pixels, hein, donc c'est des sons et des images qui sont pixelisées. On peut donc reproduire ces données et qui ne sont plus constituées par mon pouvoir de sentir, qui viennent, je dirais, frapper mon pouvoir de sensibilité, mais sans avoir été constituées par lui, donc de manière totalement extérieure. Et qui le font non plus dans un continuum spatio-temporel, par exemple, lorsque je vois un tableau, lorsque j'écoute une musique, je suis dans mon corps et je suis dans un lieu et dans un temps. Il y a un continuum. Si je me déplace à côté, je vais devoir prendre le temps de me déplacer. Si je veux faire le tour d'une sculpture, tous mes autres sens et aussi le sens de la corporealité, tout ceci sont mobilisés en même temps dans un continuum qui est celui de l'espace-temps, qui est lié à mon incarnation. Parce que être un corps, c'est être dans l'espace, à un lieu et à un moment. Et ce qui se passe dans l'expérience numérique, c'est que donc quelque chose vient trouer en quelque sorte ce continuum. Et donc, je vais avoir un écran, téléphone par exemple, ou ordinateur, qui non seulement délimite une certaine portion du continuum de l'espace-temps, mais qui va s'imposer à moi. C'est-à-dire que tout d'un coup vient une image, là où normalement je ne devrais voir qu'un écran. Mais on ne voit plus l'écran, justement, on voit l'image. On voit ce que l'image représente. On ne voit même plus que c'est une image. On voit ce que l'image, ce pourquoi l'image a été constituée. Et au fond, elle va nous, comme elle vient trouer l'espace-temps, elle va nous aspirer en quelque sorte, nous mobiliser. On ne voit plus l'écran, on n'entend plus les enceintes. On entend de la musique pixelisée, on entend de l'image pixelisée, et surtout avec cette caractéristique par rapport à ce que pourrait être un film, par exemple, ou même une musique sur un disque, avec cette caractéristique que pour continuer à me capter, nécessairement, il faut que l'image change régulièrement, parce que si j'avais qu'une seule image, j'y resterais pas. Il faut toujours qu'il y ait du nouveau contenu. Et c'est ainsi que je vais rentrer, alors ça c'est aussi un autre aspect, donc je suis capté, il faut des nouveaux contenus, mais surtout, et c'est ça qui va être la révolution numérique, c'est que l'objet auquel j'ai affaire, qu'il soit un téléphone ou un objet connecté de plein de manières maintenant, lui-même va m'envoyer, va réagir, va apprendre de moi. Hein, ça c'est la grande révolution de l'informatique, c'est la machine devient auto-apprenante. Et elle apprend de moi. Donc il y a une sorte d'interaction qui se crée. Il y a un film très intéressant sur cet aspect des choses, c'est Heure. Je ne sais pas si vous avez vu voir. Bon. On voit bien que c'est un homme qui tombe amoureux de son, comment on appelle ça son assistante personnelle, enfin d'assistante informatique, quoi. Je sais plus comment.
Vocal,
voilà. Et il va découvrir à la fin du film qu'en fait elle a 1300 relations avec d'autres hommes, parce que c'est un algorithme en fait, cette voix. Mais elle est tellement, elle sait tellement s'adapter aux situations qu'on a l'impression qu'elle est vivante et qu'il va vraiment tomber amoureux d'elle. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Et ça, c'est vraiment la grande Alors, sans aller jusqu'à l'extrême du film, hein, mais en tout cas, ça dit que la grande. Et ça, c'est Turing, hein, qui l'a inventé pendant la guerre. C'est que l'informatique est devenue. Enfin, l'informatique, grâce à la numérique, grâce à l'énorme capacité maintenant calculatoire que, la numérisation permet, puisque tout est maintenant en 0-1, et bientôt avec le quantique, tout sera encore, même plus en binaire, mais en trinaire, quaternaire et autres. En fait, grâce à cette énorme capacité de calcul, on a des machines auto-apprenantes et s'auto-adaptant à l'homme, et presque étant un vis-à-vis de l'homme. Et donc, ce que le sensible numérique va imposer, si on peut dire, c'est une vie sous le mode de la stimulation-réaction. Je suis stimulé et je réagis. Et dans cette opération, où un sensible numérique vient continuellement remplacer le précédent avec un nouveau truc, une nouvelle notification, une nouvelle info, un nouveau truc, au fond, l'œuvre de la sensibilité, je dirais, originelle, par laquelle je suis dans le monde, ne s'accomplit plus, puisque je suis mobilisé par autre chose, par quelque chose qui vient me sortir en quelque sorte de cet espace-temps. Et donc ainsi, la présence au monde, et donc à soi, et donc à Dieu, est fragilisée. Puisque cette expérience, qui est une expérience de stimulation-réaction, me maintient toujours en extériorité. On pourrait dire que désormais, c'est l'extérieur qui habite mon intériorité. Je suis habité par l'extériorité, par le monde, au mauvais sens johannique. Alors que dans l'expérience sensible, c'est mon intériorité qui s'imprimait sur les réalités du monde. Tout me parlait, enfin tout devrait me parler. Donc là, il n'y a plus d'intériorité, puisqu'elle est habitée par, elle est aliénée, elle est habitée par autre chose qu'elle-même. Et c'est ça que c'est pour ça que je parle d'une désincarnation. Et ce qui va de pair avec la désincarnation, donc je ne suis plus dans mon corps, je suis dans un autre espace-temps qui n'en est pas vraiment un, qui est une immédiateté avec tout le temps, d'une certaine manière, et surtout avec tout lieu. Donc une sorte de. Je ne suis plus là où je suis, en tout cas. Et parce que l'œuvre de la sensibilité ne s'accomplit plus, en fait, tous ces contenus qui viennent ne me rassasient pas. Et donc, parce que je ne suis pas rassasié, il m'en faut toujours plus. D'où les phénomènes d'addiction. Et parce qu'il en faut toujours plus, parce qu'évidemment, parce qu'il faut que je sois en permanence, que mon temps ne soit pas vide, hein, que l'ennui ne n'apparaisse pas, il faut toujours qu'il y ait autre chose, et de plus en plus, et de plus en plus loin. C'est pour ça que très spontanément, ça va aller jusqu'au voyeurisme, jusqu'à la violence. Voilà. Parce qu'il va falloir toujours aller plus loin. Hein, quelque chose qui va encore plus me saisir, me donner de faire de nouvelles expériences. Mais le drame de cette sensibilité, c'est qu'elle ne rassasie pas, enfin, de cette expérience du sensible numérique, je dirais, de manière totalisante. Hein. Bien sûr, heureusement, on n'est pas encore dans le métavers, hein, mais c'est qu'au fond, elle ne me rassasie pas. Et qu'elle me laisse à chaque fois un peu plus déçu et en manque. Voilà, et je termine, oui, c'est quasiment. Oui. Donc troisième point, en fait, c'est pas tout à fait la fin, mais le troisième point, derrière ça, c'est un peu une autre thèse du livre, Je crois que je dis que le numérique est un nouveau matérialisme. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Alors, c'est quoi le matérialisme? Il y a déjà eu des matérialismes dans l'histoire, il y a eu le matérialisme mécanique, le matérialisme biologique, vitaliste, il y a eu le matérialisme économique, il y a eu le matérialisme historique. Bon, il y a eu déjà des matérialismes. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme? C'est une doctrine qui prétend expliquer le supérieur par l'inférieur. Donc l'inférieur de lui-même arriverait à produire le supérieur. De l'eau pourrait sortir une bactérie, des bactéries pourraient sortir des formes de vie plus évoluées, etc. Donc c'est cette idée que l'inférieur peut expliquer, non seulement expliquer, mais produire le supérieur. Par exemple, le matérialisme mécanique, c'était de l'idéologie du XVIIIe siècle, c'était l'idée que l'esprit humain, c'était en fait des petits ressorts, qu'on arriverait à expliquer l'esprit humain avec des petits ressorts mécaniques. Hein, et que, voilà. Donc c'est de vouloir tout expliquer à partir d'une matière préalable, d'où tout peut arriver. Le matérialisme économique, ça consiste à croire que si chacun suit son intérêt, ça sera le mieux possible dans le meilleur des mondes. Parce que avec l'idée que la matière de base, c'est que chacun suit son intérêt, ses besoins matériels. Besoin physique. Bon, voilà. Donc, et le matérialisme numérique, c'est cette idée que tout vient d'un code, tout est codé. Que les sensations sont codées, que notre propre capacité de sentir, c'est en fait quasiment un algorithme, et que l'homme d'ailleurs sera dépassé un jour, parce que justement, puisque le moins peut coder du plus, l'homme, grâce à la technologie, pourra devenir un transhumain ou quelque chose qui sera encore supérieur. Et ce matérialisme n'est pas une idéologie qui a été portée par un grand penseur, c'est pas comme Marx qui a développé le matérialisme historique. Ce matérialisme, on pourrait dire, il marche tout seul. Parce qu'il est pratique d'abord, c'est pas une doctrine. C'est quelque chose qui se vit avec cette capacité des machines d'être auto-apprenantes et de devenir, finalement, de faire entrer l'homme dans une vision purement numérique du monde. C'est-à-dire que en fait, il y a le numérique, mais en fait, le monde entier est numérique, puisque tout est codé. L'homme, il est codé, puisque l'homme, il s'explique par ses gènes. Si on va jusqu'au bout les sensations sont. En fait, tout est une série de 0 et de 1. Il y avait eu quand j'étais plus jeune, il y avait le film Matrix qui avait perçu ça. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé, d'ailleurs, à l'époque. En fait, comme le dit un penseur du numérique, le numérique dresse les corps. C'est pas seulement quelque chose qui va être une idéologie qui va frapper les esprits, c'est que ça se fait insidieusement parce que ça dresse nos corps, ça nous fait rentrer dans une modalité, enfin une manière de processus dans lequel nous devons entrer si nous voulons rentrer dans ce que le numérique nous propose, et il nous facilite la vie, c'est sûr. Mais c'est pas gratuit. Ça se paye toujours. Tout se paye. Ça se paye non seulement parce que nous sommes tracés et que donc, en fait, nos données vont être récupérées, mais ça se paye aussi parce que nous allons perdre en liberté, surtout. Donc la réalité, dans le matérialisme numérique, c'est le grand code. Tout va pouvoir être mis en code, l'homme, le monde, l'économie, la biologie. Et c'est pour ça que vous avez ces convergences très fortes entre le numérique et la biologie, par exemple. Là, on va mettre des implants dans l'homme, ou on va même essayer d'avoir des ordinateurs avec des matériaux biologiques qui vont être en hybridation, quoi. tout est de l'info finalement. Tout est de l'info. Il faut connaître l'info. Donc tout est de l'info, et donc et ce qui va être d'ailleurs aujourd'hui la matière première de l'économie, c'est l'info. D'ailleurs, nos données sont aujourd'hui des grands gisements de pétrole de demain. Quoi. Enfin, c'est nos données de vie qui sont les grands gisements de l'économie qui vient. Donc l'info est la matière première de toute richesse aujourd'hui. Voilà, et je vais juste terminer avec un dernier point qui est. Qui illustre un petit peu ce que je viens de vous dire. J'ai repris des éléments dans l'Apocalypse, sans vouloir jouer sur le numérique, c'est pas Satan, hein, mais il faut juste voir qu'il y a des enjeux spirituels qui se jouent avec le numérique, comme ils se sont joués avec les autres matérialismes précédemment. Hein, sauf que le matérialisme numérique a une puissance qu'on n'a encore jamais connue. C'est ça qui change. Mais c'est déjà des choses qui étaient déjà en germe. On pourrait dire dès l'Empire romain, puisque quand Saint Jean écrit l'Apocalypse, c'est la vision qu'il a de l'Empire romain qui lui permet de révéler les enjeux spirituels du monde après le Christ, de l'histoire des derniers temps. Parce que c'est ça que l'Apocalypse nous raconte. L'Apocalypse ne nous raconte pas ce qui va se passer. Elle nous dévoile, à partir de ce que Saint Jean a vu, des enjeux du temps d'après le Christ, du temps de l'Église. Or, si on devait résumer très rapidement, il faudrait rentrer dans le détail, mais en gros, l'Apocalypse nous montre une fausse trinité, qui est celle du dragon, qui est le Satan pour le coup, de la bête qui monte de la mer, qui est le pouvoir politique, et de la bête qui monte de la terre, qui est le pouvoir idéologique. Et qui est, la bête qui monte de la terre, elle est aussi appelée le faux prophète. Et cette fausse trinité, dans l'Apocalypse, et c'est ça ce que je vous dis, c'est des choses que Balthazar a beaucoup développées, le théologien Hans-Urs von Balthasar, cette fausse trinité, elle cherche à singer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la Trinité. Quelle est l'œuvre de la Trinité dans l'Apocalypse? C'est l'engendrement des fils. Dans le Fils unique, avec la collaboration de l'Église, qui est cette femme qui enfante dans les douleurs de l'enfantement, et dans l'Esprit. Donc l'œuvre de la Trinité, c'est l'engendrement des fils. Bien sûr, la fausse Trinité ne peut pas engendrer de fils, elle n'a pas le pouvoir d'engendrer des fils de Dieu, mais elle peut fabriquer une image de la bête. Donc elle n'engendre pas un fils, mais elle fabrique une image de la bête et elle l'anime. C'est dans mon dernier chapitre, mais je vous redonne les références. Là, c'est à partir du chapitre 12 principalement. Et cette image animée de la bête donne l'illusion de la vie. Et elle est tellement merveilleuse que tous les hommes se prosternent devant elle. Donc il y a une sorte d'idole qui a ceci de supérieur aux idoles classiques, c'est qu'elle vit, elle semble vivre. Et ceux qui se prosternent devant elle ont une marque, alors pas celle qui est mise sur les élus, hein, qui est la lettre tau, hein, le signe de l'agneau, mais le chiffre de la bête. Et le chiffre de la bête, vous le savez, c'est 666. 666, c'est l'indéfini du nombre. 6, avec 6, on peut tout faire, puisqu'on a le 1, 2, 3, 2 fois 3, on a le... Et donc à partir de là, on peut générer tous les chiffres. Donc c'est l'indéfini du nombre, on peut compter. Et d'ailleurs, l'Apocalypse parle beaucoup des marchands, hein, qui achètent et qui vendent des hommes. Donc tous ceux qui se prosternent devant l'image de la bête reçoivent cette marque, c'est-à-dire qu'ils sont comptables. On peut faire des statistiques, on peut dire, ben voilà, il y a une homogénéité des hommes et des choses. Normalement, ce qu'on compte, c'est les choses, c'est les objets. Mais là, les hommes eux-mêmes reçoivent ce chiffre. Donc ils vont être aussi comptables comme des choses. Donc on rentre dans un monde où la différence entre homme et chose n'existe plus. Et on voit bien, alors, il ne faut pas faire un parallélisme trop strict, mais je pense que cette idée de l'image de la bête animée, cette idée du chiffre, etc., elle éclaire, me semble-t-il, la manière dont nous sommes, lorsque nous entrons dans le numérique, nous sommes comptés. Toutes ces infos qui remplissent ces gisements, qui sont comptabilisées avec des algorithmes, etc., nous passons, toute notre existence passe dans des algorithmes. Et il me semble que voilà, l'Apocalypse nous révèle qu'il y a un enjeu spirituel, un combat, qui est soit de se prosterner devant l'image de la bête, c'est-à-dire d'aller, je dirais, sans réflexion et sans réserve, d'entrer à fond dans ce nouveau monde si prometteur à certains égards, ou d'être fils à l'image du Dieu vivant. Mais être fils à l'image du Dieu vivant, c'est se reconnaître corps et âme dans cette incarnation qui est la nôtre, dans cet espace, dans ce temps, où Dieu est présent et il n'est pas présent ailleurs que dans nos corps, que dans nos communautés où nous faisons corps et où nous sommes en relation les uns avec les autres. Sinon, si on rentre du côté de la fausse trinité, nous tomberons, nous faisons alliance avec la bête, et la bête qui monte de la mer, c'est un peu ce matérialisme, monter de la mer, comment peut-on monter de la mer? C'est comment le plus peut venir du moins? Ben oui, ben la puissance politique de la bête, cette forme d'idolâtrie de la puissance, d'une puissance qui repose en réalité sur rien, mais qui est impressionnante. On voit bien que l'outil numérique nous donne une puissance qu'aucun homme n'a eu avant nous. Néron, qui a sans doute inspiré Saint Jean, Néron était l'homme le plus puissant de son temps et il pouvait d'une parole obtenir des effets à l'autre bout de l'Empire. En Égypte, il pouvait ordonner des... Mais il fallait quand même que ces ordres mettent un peu de temps à arriver. Mais enfin, en quelques jours, Néron avait une puissance totale, immédiate, sur l'ensemble de l'Empire. Mais il était le seul. Mais aujourd'hui, on est tous des petits Nérons. Parce qu'on a tous un pouvoir. D'un clic, on peut déclencher des choses à l'autre bout du monde. Donc on a une puissance qu'aucun homme n'a jamais eue. Une puissance sur l'espace, en tout cas. Et sur le temps, parce qu'il y a une immédiateté, il n'y a pas besoin d'attendre. Cette immédiateté qu'un Néron a frôlé, parce qu'à l'époque, c'était le seul qui pouvait le vivre, et ça l'a rendu fou, aujourd'hui, on peut tous le vivre, et on peut tous en devenir fou, sans doute. Voilà. Mais je pense que ça peut rendre fou. Oui, ça c'est vrai. Bon, et je termine juste sur quelques enjeux pour terminer, qui me semblent justement prophétiques. En fait, la racine de notre fascination pour le numérique, c'est la puissance, enfin, l'efficacité. Voilà. On veut gagner en puissance, en efficacité, et en plus souvent pour le bien, pour une bonne intention, pour se faire mieux connaître, peut-être pour avoir plus de monde qui soit touché par notre message, etc. Donc, c'est cette question de la puissance qui me semble le ressort du combat. Est-ce que cette puissance n'est pas neutre? Cette puissance, elle peut devenir idolâtrique. Et le chemin chrétien, c'est un chemin d'incarnation. C'est un chemin d'accueil d'un corps, d'un espace, d'un lieu, d'un temps, d'où l'engagement. Ben, je m'engage là et pas ailleurs. Je ne peux pas être partout. Ça, c'est le chemin de l'incarnation. Et donc, il me semble, et je crois que, en plus, pour les communautés contemplatives, vous en êtes peut-être plus encore les gardiens de cette vérité de l'incarnation, Il me semble, et ce que je dis, c'est plus pour chacun de nous, c'est pas spécifique aux communautés religieuses, même si vous avez un témoignage peut-être plus fort à donner, mais en tout cas à vivre, il y a une assaise de la puissance. Je crois qu'il faut ne pas être dupe. Il faut faire moins de choses. Oui, on voudrait partout, on voudrait que... Oui, mais faisons-le avec les moyens qui sont les nôtres. Je suis très frappé, tout à l'heure, le frère Jean-Baptiste nous parlait de cette capacité que les jeunes ont d'être interconnectés en communauté. Donc il y a ce besoin viscéral de pouvoir parler. Alors, ils le font de manière numérique, ce qui, à mon sens, est insuffisant. Et d'ailleurs, ils pensent aussi qu'ils ont besoin de se voir en vrai. Mais je me disais, au fond, cette interconnexion, c'est une interobjectivité, mais y a-t-il une réelle intersubjectivité? Et d'une certaine manière, dans la prière, même lorsqu'on ne voit pas les personnes, lorsqu'on ne les entend pas, il y a une intersubjectivité. Et donc, peut-être que sans le savoir, ce que ces jeunes cherchent, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de la prière. S'ils comprenaient que la prière les met en contact les uns avec les autres, sans qu'ils soient dans le même lieu. La communion des saints, c'est la vraie intersubjectivité. C'est pas l'interconnexion, la communion des saints. Mais est-ce que nous y croyons suffisamment pour le vivre et proposer? Donc, une assaise de la puissance, ça c'est une première chose, faire moins de choses, sortir du quantitatif, de la gestion. Une redécouverte de l'intersubjectivité et de la communion des saints, finalement, dans la prière, ben oui, on pourra peut-être pas rejoindre le monde entier, on rejoindra ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Moi, je suis très frappé dans le discours d'envoi mission de Jésus, lorsqu'il dit « n'allez pas de maison en maison ». Quand vous accueillez quelque part, restez-y. Donc on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour... Voilà, prendre le temps de la rencontre. Et ce temps de la rencontre, c'est d'entrer chez les gens, c'est de prendre le repas qu'ils nous donnent, etc. Donc c'est. Voilà, donc on est vraiment. On doit chercher cette qualité de la relation, plus que du quantitatif. Voilà, il y a aussi la cesse des contenus. Bon, ça c'est plus pour les jeunes, hein, comment les aider à une sorte de jeûne de l'âme. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes. C'est très à la mode aujourd'hui le jeûne corporel. Donc c'est le truc qui vient des États-Unis. Pendant le carême, on mange plus un pain pendant. Enfin, je ne connais pas trop le détail, mais il y a plein de formules. Ils sont même très très radicaux, ils sont même capables de jeûner beaucoup plus que nous. Enfin, mais ça c'est le jeûne du corps. Mais est-ce qu'on leur parle suffisamment du jeûne de l'âme? Parce que voir des contenus, des images, tout ça, ça rentre en nous aussi. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui font hyper gaffe à ne pas manger de gluten, à ne pas manger de trucs, à ne pas manger parce qu'ils sont sensibles et allergiques. Mais est-ce qu'on a réfléchi aux allergies que les nourritures de l'âme peuvent créer en nous? Un jeune aujourd'hui, il laisse rentrer en lui n'importe quoi. Il pense que ça ne le touche, que ça ne va pas changer. Mais si, c'est une nourriture de l'âme. Donc son âme va digérer ça quand même. Donc comment est-ce qu'il y a aussi cette assaise sur les contenus. Voilà, et puis comment reconquérir une liberté intérieure. Donc c'est un peu lié à l'assaise de la puissance. Hein. C'est quand même ça, une liberté intérieure qui soit capable de se... décider en fonction de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce chemin d'incarnation, c'est ces rencontres, peut-être moins nombreuses, mais plus vraies. Enfin voilà, c'est tout un chemin de qualité qui me semble nécessaire. Voilà. Bon. Comme vous le voyez, je suis un petit peu peut-être radical, hein, voilà. Mais bon, au moins ça aura le mérite de faire peut-être d'éveiller des débats et des réflexions. Mais c'est pas l'Apocalypse, je vous rassure. Alors, oui, ce que Ce que je vous propose maintenant, c'est pendant peut-être trois quarts d'heure, jusqu'à 25 en fait, 40 minutes, de faire. Alors, je vous propose une réflexion sur des thèmes. Donc, les thèmes les voici, et je pense que ça serait bien que vous divisiez en fonction des thèmes. Hein. Avec deux questions. Donc, c'est la relation à notre corps. Alors ça, c'est les thèmes. La relation au temps, la relation à mes frères et sœurs, la relation à la création, la relation à la prière et la relation au monde. Voilà, donc ça fait six thèmes.
Vous pouvez les répéter ?
Alors, la relation à notre corps, au temps, à mes frères et sœurs, à la création, à la prière et au monde. Donc, et donc, vous choisiriez un thème, et puis sur chaque thème, il y aurait en gros deux questions. Comment est-ce qu'on vit cette relation, personnellement et en communauté, avec le numérique, quel impact, évidemment, par rapport aux outils numériques, quel impact cela a-t-il ou non, quels en sont peut-être les avantages, parce qu'évidemment, ça, on peut peut-être trouver des avantages, des difficultés, des questions soulevées. Et puis ensuite, est-ce qu'on a des critères de discernement sur les décisions que nous prenons en communauté ? Par exemple, si c'est la question du rapport au temps, si c'est la question du rapport aux frères et sœurs, ou à la prière, etc.